Europe Matin, première édition, présentée par Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Lionel, bonjour à tous. La Corse toujours sous les orages et en vigilance orange. Cette nuit, la pluie et le vent ont continué de balayer l'île de Beauté avec des rafales à plus de 70 km/h selon Météo France. Une nuit d'angoisse pour les habitants et les vacanciers sur place après les intempéries meurtrières d'hier matin. 5 morts, dont une adolescente de 13 ans, 20 blessés. 300 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour venir en aide aux sinistrés. En mer, où un pêcheur et une kayakiste ont perdu la vie, les sauveteurs ont mené 125 interventions pour des bateaux à la dérive. Certaines de ces embarcations ont échoué sur la plage. Exemple à Sagone, en Corse du Sud, où s'est rendu notre envoyé spécial William Molinier.
Depuis la plage, Dominique surveille son bateau accroché à l'anneau. Lui a résisté à la tempête. Ce n'est pas le cas d'une demi-douzaine d'embarcations échouées sur le sable.
Vous voyez là, il y a trois bateaux échoués. Moi, j'ai 67 ans et ça fait... j'ai jamais vu ça. Jamais. J'ai encore peur, vous voyez, je surveille encore mon bateau.
Julien a eu moins de chance. Il était dans son voilier en train de dormir quand le vent s'est levé. Impossible de réagir.
Bah, ça se termine d'une drôle de manière, mais on reste chanceux compte tenu de la violence. On était tous au port, amarrés. Les amarres ont lâché. Les bateaux se sont entrechoqués pendant une heure. Bah, c'était un vrai carnage.
Sagone est l'un des villages côtiers les plus touchés par la tempête. Hier, les habitants et les vacanciers se sont retroussés les manches pour nettoyer la plage et le camping et tenter d'oublier au plus vite cette tornade qui a fait un mort et une dizaine de blessés, dont un grave sur quelques kilomètres carrés seulement. Sagone, William Molinier, Europe 1.
La Corse où la vigilance orange est donc en vigueur jusqu'à 10h au moins ce matin. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est sur place depuis hier soir. Le président de la République et la première ministre ont activé une cellule de crise.
Et puis Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif corse, l'a dit, la situation était apocalyptique hier matin.
Oui, des rafales de vent à plus de 200 km/h. Le phénomène a été aussi soudain que violent. Une nouvelle catastrophe au terme d'un été de tous les extrêmes. Patrick Marlière est prévisionniste chez Agathe Météo.
On a eu 197 km/h à Calvi. On a battu tous les records, record absolu de force de vent sur Calvi. Pour atteindre une telle valeur, il fallait qu'on retourne en 1999 lors des tempêtes que l'on a classées comme tempêtes du siècle. On a eu une situation météorologique cet été sur la France exceptionnelle. Un été caniculaire, de chaque vague de canicule se traduisait à la sortie par des orages déjà extrêmement forts avec des chutes de grêle comme on n'avait jamais vu. Et là, effectivement, c'est associé à des forces de vent extrêmement violentes. Donc, oui, c'est apocalyptique. Oui, ça peut se reproduire.
Patrick Marlière au micro Europe 1 de Louise Douillet.
6h04 sur Europe 1. Cette question maintenant, faut-il transformer l'allocation de rentrée scolaire en bon d'achat? C'est la proposition que fait un député des Républicains du Pas-de-Calais.
Et Pierre-Henri Dumont, pour lui, il est nécessaire de s'assurer que les parents utilisent bien cette allocation pour des achats de fournitures scolaires et pas autre chose. Écoutez, il est au micro d'Alexis de La Fontaine.
Je m'étonne des attaques de la gauche et d'Olivier Véran. Cette proposition permet au contraire, de par son dispositif de donner une partie de l'aide aux communes pour acheter des trousseaux de fournitures selon les besoins des enseignants, puis en donnant des bons d'achat pour le reste des sommes aux familles, d'avoir plus de matériel pour les enfants. Et donc c'est une proposition de loi qui donnerait plus de moyens de réussite aux enfants, et je m'étonne que la gauche et le gouvernement ne partagent pas cet objectif.
La gauche, effectivement, qui ne goûte pas du tout cette proposition de loi. Pour le député NUPES des Yvelines, Benjamin Lucas, c'est une discrimination envers les plus modestes.
Je ne crois pas qu'il y ait une mauvaise utilisation de cette allocation. Personne n'a jamais été capable de démontrer une étude sérieuse qui l'affirme. Je trouve quand même qu'on a là une question morale qui est posée dans la société. On veut sans cesse contrôler ce que font les plus pauvres de l'argent qui leur est donné pour survivre, qui leur est donné dans le cadre de la solidarité nationale. On ne le fait jamais avec les plus riches. Il y a une forme de violation permanente de l'intimité des plus pauvres de notre pays, dont on explique à longueur de journée qu'ils sont des mauvais parents. Arrêtons avec les fausses polémiques.
Notez que cette année, 10,8 millions de foyers les plus modestes recevront à partir du 15 septembre 100 euros d'une aide exceptionnelle de solidarité pour faire face à l'inflation et 50 euros supplémentaires par enfant à charge.
Au chapitre de la santé maintenant, la variole du singe se transmet désormais de l'homme à l'animal.
Eh oui, premier cas à Paris, deux hommes contaminés ont transmis le virus à leur lévrier. Les médecins avaient pourtant recommandé aux patients de se tenir éloignés de leurs animaux domestiques, car si le risque de leur transmettre la maladie était encore théorique, il était cependant bien réel. Les précisions de Gilles Pialou, c'est le chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon à Paris.
Là, c'est juste une démonstration de ce qu'on appelle la transmission réverse, c'est-à-dire que au lieu de passer de l'animal à l'homme, ça revient vers l'animal. Et là, on a la démonstration que ça peut circuler aussi chez les animaux de compagnie, avec soit les contacts, soit les déjections, soit la salive, etc. Donc c'est exactement la même chose que la transmission interhumaine. Donc effectivement, une possibilité que ça augmente la boucle de circulation du virus. Si vous avez un animal de compagnie, il faut, si possible, avant chaque contact avec l'animal, il faut porter des gants à usage unique, et même, parce qu'il y a une transmission gouttelette, hein, de porter un masque chirurgical à proximité de l'animal et de mettre tous ses déchets dans des sacs qui sont prévus à cet effet. Donc c'est assez lourd.
Le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon à Paris, Gilles Pialou, joint par Yasmina Katou.
À l'étranger, cette question ce matin. L'ONU pourrait-il contrôler la centrale de Zaporijjia en Ukraine? C'est ce que demande Volodymyr Zelensky.
Oui, depuis le début du conflit, le site nucléaire est régulièrement menacé par des bombardements russes. La situation abordée hier lors d'une rencontre à Lviv entre le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le président ukrainien et son homologue turc. Au menu des discussions également, les exportations des céréales ukrainiennes vers l'Afrique notamment. Cette rencontre, elle place à nouveau le président turc en médiateur privilégié de ce conflit. Écoutez les explications de Frédéric Ansel, il est professeur de relations internationales à Sciences Po.
L'entremise de la Turquie, elle est rendue nécessaire en interne parce que M. Erdogan se retrouve en position calamiteuse dans les sondages à un an d'élection présidentielle qu'il ne veut pas perdre. Donc il met les habits de chef de guerre extérieur. Et d'autre part, depuis les accords de Montreux de 1936, la Turquie dispose en pleine souveraineté des détroits. Bon, bah elle en joue. Évidemment, si vous avez une guerre entre l'Ukraine et la Russie et que ces deux États cherchent de manière extrêmement vitale, j'allais dire, et en l'occurrence encore plus l'Ukraine que la Russie aujourd'hui, à exporter via les détroits, bah, la Turquie eût été bien stupide de ne pas jouer le jeu de ce portier, en quelque sorte. Hein. La Turquie dispose de cette rente qui interdit les riverains de se fâcher de manière catégorique avec Ankara, bien sûr.
L'analyse de Frédéric Ansel, auteur des Voix de la puissance aux éditions Odile Jacob, avec Nina Droff.
6h08, retour en France avec des retours de vacances, justement, qui pourraient s'annoncer compliqués aujourd'hui.
Oui, bison futé, voire rouge, dans tout le pays aujourd'hui. C'est pas le bon jour pour revenir de vacances. Hein. C'est la promesse de longues heures de bouchons. Et pour établir ces prévisions, eh bien, des agents surveillent le trafic en temps réel, tous les jours, mais il travaille aussi tout au long de l'année. C'est ce que nous explique Thierry Mauduit, il est chargé de mission chez Vinci Autoroute.
Grâce à nos outils, les boucles de comptage notamment, c'est un dispositif qui est ancré dans la chaussée à l'intérieur, hein, qui permet de compter le nombre de véhicules qui passent dessus. Donc les données qu'on a, qu'on met dans un algorithme, arrivent à nous calculer heure par heure et jour par jour le trafic attendu sur l'ensemble du réseau autoroutier. En termes de prévision à court terme, après, on a des équipes qui travaillent donc nuit et jour effectivement en PC sécurité. On a des patrouilleurs qui sillonnent le réseau toute la journée, toute la nuit, c'est du H24, pour vérifier que tout se passe bien, pour vérifier que le trafic s'est coule convenablement, qu'il n'y ait pas d'obstacles sur le trajet des usagers. Vous avez sur les secteurs qui sont extrêmement chargés, qu'on pourrait prendre comme A7 par exemple, où vous avez l'équivalent d'un patrouilleur tous les 30 km. C'est un gros travail, effectivement.
Un propos recueilli par Chloé Lagadou.
Bon, alors avant de prendre la route pour rentrer à la maison, on peut encore profiter un peu des vacances, Annie ?
Un petit peu, au moins ouais. Ça, avec notre série sur les métiers de l'été. Dernier jour dans le charmant parc d'attractions Fraypertuis City dans les Vosges. Alors après un tour en manège et un burger, on va mettre des paillettes dans nos vies ce matin. Tatiana Geiselman nous emmène aujourd'hui faire un petit tour au stand de maquillage.
Depuis tout à l'heure, je vois des enfants défiler avec des super maquillages sur la figure. On va donc aller voir Orane qui s'occupe du stand maquillage. Bonjour.
Bonjour.
Je m'appelle Orane, j'ai 22 ans et je travaille à Fraypertuis au stand de maquillage depuis 4 ans maintenant.
Est-ce que tu veux un rouge à lèvres aussi ou pas?
Ouais. On maquille des enfants ici. Ici, je suis en train de faire un petit chat sur une petite fille, voilà, au pinceau avec la peinture, tout simplement.
Est-ce qu'on te met des petites paillettes, mademoiselle?
Oui. Ouais.
Je vais faire un peu quoi avec mon maquillage?
C'est ma princesse.
Voilà, c'est tout le monde. Merci beaucoup.
On fait aussi des petits tatouages éphémères. Donc là, on lui fait un petit tatouage sur le bras. Voilà, une petite toile d'araignée. Le Spider-Man en général, ça marche bien.
Trop beau.
Du coup, pour 4 fois, je veux bien le laisser sécher 15 à 20 minutes sans faire de jeu avec de l'eau et sans le toucher.
D'accord.
Chez vous, vous mettez un voile de lac avant la douche pour bien le protéger.
Vous avez l'air jaloux, monsieur. Vous voulez pas le même, vous êtes sûr?
Bon, je suis sûr.
Est-ce que vous pouvez donner un peu de libre cours à votre imagination?
Alors, cette année, j'ai eu un dinosaure que j'ai fait. Le petit était super content. Il allait voir tous les passants dans la rue en faisant le bruit du dinosaure. C'était trop drôle.
Donc, vous savez dessiner les dinosaures?
Oui, ben on en fait ici d'ailleurs.
Je peux en avoir un?
Si vous voulez, oui, avec plaisir.
Donc, merci beaucoup. Et maintenant que j'ai un dinosaure, je vais aller rugir dans la rue, moi aussi.
Ce serait super. Passez une bonne journée.
Merci, vous aussi.
Au revoir. Au revoir.
Vous, Lionel, comment vous faites le rugissement du dinosaure?
Non, je ne fais pas, moi j'ai le sens du ridicule.
Vous ne rugissez pas. Bon, Tatiana rugit très bien, j'en suis certaine.
Merci, c'était le journal de Fanny Marceau. À tout à l'heure, Fanny.